Nous sommes en ligne à présent avec Yehuda Lancry. Yehuda Lancry, bonsoir.
Bonsoir Bernard.
Et merci d'être l'invité de Radio Shalom. Vous habitez, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France, mais pas seulement. Vous avez été aussi en poste auprès de l'ONU. Et Yehuda Lancry, vous habitez une localité qui s'appelle Shlomi, que moi je vois maintenant.
Oui, je l'habitais, je ne l'habite plus.
Ah oui. Alors moi je vois régulièrement passer Shlomi sur mon téléscripteur, parce que c'est l'une des cibles du Hezbollah. Et d'ailleurs, on entendait à l'instant Robert Zvili dire « La situation au nord m'inquiète quelque part plus que la situation au sud ». Est-ce que vous partagez ses préoccupations ?
Les deux situations sont très préoccupantes, aussi bien au sud que le nord. En fait, concrètement, sur le plan civil, nous avons momentanément perdu le nord, puisque la majeure partie de la population n'habite plus les localités frontalières. Et même si l'on enregistre quelques succès militaires contre le Hezbollah, le compte est loin d'être réglé.
Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous avez l'impression que dans ce conflit, on est en train un peu de perdre pied ?
C'est un conflit très particulier que les experts militaires pourraient qualifier de conflit asymétrique, d'une guerre asymétrique, c'est-à-dire entre une armée régulière qui obéit à certaines règles d'engagement selon le droit de guerre international et une armée terroriste. Ce n'est même pas un mouvement, c'est une armée terroriste forte de 40 000 hommes qui s'est en fait enterré dans une espèce d'hydre souterraine à Gaza, qui n'obéit à aucune règle du droit de la guerre internationale, qui prend pour cible les localités civiles israéliennes, qui fait usage de leur population civile à Gaza même, comme bouclier humain, enfin on connaît tout ça. Alors évidemment c'est inquiétant parce que il est difficile d'en voir l'issue, notamment lorsque dans la balance la vie de à peu près 125 otages, dont on ne sait combien sont toujours vivants, est entre les mains du Hamas.
Est-ce que les derniers événements à Rafah nous montrent ou vous montrent que c'était bel et bien un piège, Rafah ? On a donc, voilà ce qui s'est passé en fait. Les Israéliens ont ciblé, je dis on dans le sens pronom indéfini, on. Mais les Israéliens ont ciblé deux responsables, sur information de leur service de renseignement, ils ont ciblé deux responsables du Hamas qu'ils ne veulent absolument pas laisser passer, puisque c'est par exemple le chef des opérations du Hamas en Judée-Samarie. Donc c'est quelqu'un qui, c'est certain, ils ont l'information, ils ne vont pas le laisser passer. Bon, voilà, ils ont tiré avec un drone et le feu a pris parmi les tentes des habitants, il y a 35 morts. Est-ce que Rafah, c'est un peu le piège qu'on nous avait prédit ?
Bien sûr que c'est un piège. Il n'y a pas que les 35 morts de l'événement tragique de la nuit dernière. Au fond, l'armée israélienne a opéré une frappe ciblée pour tuer des chefs terroristes qui a malheureusement dégénéré, on saura peut-être les raisons dans quelques jours, en incendie généralisé d'une partie du campement humanitaire. Ce sont des situations insoutenables, comme la quantité de morts du côté israélien le 7 octobre, comme du côté palestinien, des morts qui s'accumulent. Je n'ai aucun regret quant aux 15 000, 16 000 morts de terroristes tués par Israël et qu'Israël reconnaît avoir tué, mais je regrette évidemment la mort de civils innocents, vieillards, femmes, enfants, toutes les images chocs que nous recevons. On peut dire au passage qu'Israël a largement perdu la guerre des images.
Ah ben bien sûr, mais est-ce qu'elle va gagner la guerre sur le terrain ? Parce qu'on ne s'attendait pas à autant de difficultés. Je crois que n'importe qui disait dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, l'histoire est réglée, c'est de sale. Et on voit que non.
Mais ça n'est pas si facile à cause justement de ces deux grands obstacles. Excusez-moi d'employer le terme, eu égard à nos otages entre les mains du Hamas, mais il faut les prendre en compte et il faut agir de sorte à ne pas été atteinte aux otages eux-mêmes, et la population civile gazaoui. Il y a tout de même, du côté d'Israël, une préoccupation majeure, c'est d'essayer de préserver la vie des Palestiniens civils non engagés dans la mesure la plus large possible. Donc ce sont des limites objectives qui nous imposent une forme de guerre inédite jusqu'ici. Nous avons dans la typologie guerrière d'Israël des guerres éclairs, des guerres un peu plus longues, mais celle-ci a un caractère tout à fait particulier.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que nous sommes dans un bourbier, la bande de Gaza, en légitime défense, parce que nous avons été, il faut le dire, pris de court le 7 octobre. Nous avons essuyé une débâcle militaire sans précédent. Et il y a nécessité de démanteler le Hamas. Je crois que la communauté internationale converge avec Israël sur cet objectif. Mais il est inatteignable de façon classique. Donc il faudrait prendre le temps de se défaire du Hamas systématiquement, tout en assurant le retour des otages israéliens.
Yehuda Lankri, vous aviez, en tant qu'ambassadeur, vous aviez cherché des pistes avec l'OLP, alors évidemment sous mandat de votre gouvernement, mais vous avez participé à ces tentatives de rapprochement avec l'OLP, avec les Palestiniens. Est-ce que c'est quelque chose que vous referiez aujourd'hui ? Est-ce que vous regrettez que ça n'ait pas marché ? Ou est-ce que vous vous dites que c'était une fausse route ? Qu'on voit bien que c'est deux peuples qui finalement veulent la même... Vous savez, on peut résumer facilement. Vous avez deux groupes de gens qui veulent la même chose, ben voilà, ils veulent le même territoire, ils veulent la même Jérusalem, et après, qu'est-ce que vous voulez faire ? Les gens veulent la même chose. Est-ce que vous pensez que... voilà, ma question est comme ça. Vous regrettez que ça n'ait pas marché, les discussions avec Laïla Chaïd, avec l'OLP, ou vous pensez que c'était une fausse route aujourd'hui, après le 7 octobre ?
Ça n'est en aucun cas une fausse route. Je pense qu'il y a eu la vaillante tentative des accords d'Oslo. Donc je pense évidemment qu'avec tous les ratés de ces accords, ce fut un tournant historique, puisque pour la première fois émergeait la reconnaissance mutuelle entre Palestiniens et Israéliens, alors que l'on vivait une négation mutuelle centenaire. Donc on a fait un pas en avant, et je pense que la situation actuelle devrait nous inciter à essayer à nouveau, à nous entendre avec les Palestiniens. Il y a chez les Palestiniens une prise de conscience sur les insuffisances de l'autorité palestinienne qu'il faudrait réformer, et le rejet du Hamas. Le Hamas, on ne le dit pas clairement du côté arabe et du côté palestinien, mais il y a beaucoup de pays arabes, beaucoup de Palestiniens qui souhaitent la fin du Hamas. Ce qu'il y a de regrettable, c'est cette machine du déni, comme le disait Bernard-Henri Lévy, qui a eu lieu juste après le choc bouleversant du 7 octobre. On avait eu dans un premier temps une solidarité internationale, mais aussi en parallèle un déni systématique, notamment dans les institutions internationales. Tout se passait au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale ou au sein de la Ligue arabe, comme s'il fallait laver la souillure du Hamas dans les eaux lustrales, c'est-à-dire purificatrices de la cause palestinienne. On ne parle plus maintenant que de cause palestinienne, alors qu'il faut en extraire le Hamas à tout prix.
Et il faut des élections ?
Il faut des élections, c'est-à-dire chez nous,
oui,
chez nous, il faut des élections, bien entendu, ça s'impose. Il va falloir que l'on fasse nos grands choix sur la base d'une consultation démocratique. Et des élections anticipées seraient le bienvenu. Les Israéliens doivent décider et des objectifs et de leur destinée immédiate et future. Avec des élections selon l'institution politique prévalente en Israël.
Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, je pars pour un endroit et à l'ONU. Je me souviens d'ailleurs que l'ancien secrétaire général de l'ONU vous a dit faites attention, les Iraniens ne rigolent pas. Ils ont un vrai agenda. À vous, il vous a dit ça. Vous a dit, c'est vrai ou pas ? Vous avez dit, monsieur Lankri, sachez, Les Iraniens, c'était Kofi Annan à l'époque. Les Iraniens, ils rigolent pas. Et quand ils ont un agenda. Quand ils disent qu'ils veulent vous détruire, ils parlent sérieusement.
Kofi Annan était un grand secrétaire général avec une assise morale infaillible. Et j'en viens à le regretter.
Bah oui.
À l'heure actuelle.
Ouais, c'est pas dur. Malheureusement. Merci, Yehuda Lankri. Je pars pour un endroit d'ailleurs maintenant avec les auditeurs que vous connaissez bien, pour l'université de Dauphine, où on retrouve le président du EJF qui est face à Rima Hassan. Alors vous voyez, et c'est tous des endroits que vous connaissez ça. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été monsieur Lankri et ancien ambassadeur. Mais je crois qu'on dit ambassadeur jusqu'à la fin de sa vie, c'est un peu comme tous les titres, c'est comme l'Académie française. Merci à vous. Bonsoir.
Bonne route, Bernard.
De Daraba. Au revoir.